Voix Nue. Toute cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Eri De Luca. Ce soir, s'engager.
Eri De Luca, bonsoir. Nous avons parlé hier de votre enfance, de la ville de Naples et de la manière dont Naples vous avez façonné. La manière aussi dont la présence des marins américains vous révoltait dans votre jeunesse. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit à vous engager politiquement, à vous déclarer communiste très tôt ?
Alors, des choses qui se produisaient à Naples m'ont tout simplement chargé une volonté de m'en aller, une expulsion. Je me suis arraché de mon lieu. Plutôt qu'aller vers quelque chose, vers une direction, j'ai voulu m'arracher, comme on peut s'arracher un dent d'une mâchoire, tout en sachant que un dent qui sort de la mâchoire ne peut pas être implanté dans aucune autre mâchoire. Donc c'était une extraction définitive. Et après, dès qu'il y avait un âge du siècle qui regardait une génération entière, j'avais 18 ans en 1968, donc je me suis trouvé dans les rues avec une génération qui était déjà sortie dans les rues. Donc j'ai adhéré à cette génération. Elle était là. Elle était dans les rues, dans le centre des rues. Elle bloquait la circulation, elle marchait dans une direction. Et donc j'ai obéi. J'ai adhéré et j'ai obéi à cette génération, à l'ordre du jour de cette génération.
En 68, donc vous quittez Naples à 18 ans, en 68. Donc vous vivez 68 en dehors de Naples.
Si, à Rome.
À Rome. Et vous partez à Rome, Eri De Luca, par hasard. C'est par hasard que vous vous retrouvez à Rome ou c'est...
Si, c'était la ville la plus proche. Donc c'était avec un billet de train, quelques heures de distance, je ne pouvais me déplacer définitivement. C'était ce sentiment de détachement, je ne voulais pas m'installer quelque part. Je voulais marquer ma distance. J'ai trouvé le lieu et l'appartenance à travers la condivision et en partageant les motivations, les raisons d'une génération insurgée. Là, je suis devenu citoyen à nouveau. Mais mon but de départ était la volonté de me détacher.
De votre famille aussi.
De famille, de la ville, du futur qui était envisagé pour moi. Donc l'université et toutes ces choses comme ça que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais plus entré dans une université, jamais inscrit à une université.
Ça vous rebutait vraiment parce que c'était un futur qui était déjà clos en fait.
C'était un futur marqué, signé, mais j'avais aucune idée du futur. Et je me suis trouvé à travailler à Rome, j'ai trouvé du travail comme colporteur, et donc j'ai commencé à vivre là.
Alors votre génération, Eri De Luca, vous dites que c'est la première d'Europe qui n'est pas envoyée à la guerre contre une autre jeunesse. Donc il y a ce sentiment d'être patriote du monde. Et c'est une jeunesse, une génération qui expérimente d'autres formes de lutte. Vous appelez ça les années de cuivre. Alors pourquoi les années de cuivre ?
D'abord, je veux dire que je suis un européiste par gratitude. Je sais que l'Europe a été formée pour empêcher le retour de la guerre en Europe. Donc pour sauver les générations futures. Et donc je suis très gré à l'Europe, je suis très gré à la France et à l'Allemagne qui ont décidé de bâtir ces premiers briques de l'Europe. Ce n'est pas une monnaie commune, c'est la volonté de renier la guerre et les raisons de la guerre, les fascismes, les dictatures.
Donc cette génération qui expérimente d'autres formes de lutte, et vous avez appelé les années de cuivre.
Ah, si, les années de cuivre. Et bon, dès que la version officielle de ces années-là, chez nous, est les années de plomb, que c'est un titre qui vient d'un film allemand, qui n'a rien à voir avec là, mais qui a cette volonté de placer une plomberie définitive sur ces années de plomb, sur ces raisons. Alors je dis que s'agissait du contraire. C'est du cuivre que c'est le matériel, c'est l'élément qui transmet mieux l'électricité. Et s'agissait exactement de ça dans les luttes de ces années-là. Il y avait une électricité politique qui câblait l'Italie de ce moment-là et qui rendait les slogans et les objectifs d'une lutte ouvrière au nord comme les mêmes d'une lutte d'étudiantes au sud. Il y avait une unité d'intention et de mots d'ordre qui s'était produite spontanément, donc électriquement. Il y avait un câblage mystérieux de la politique qui s'était produit à travers une hausse de la température. C'était comme si l'Italie avait une fièvre, un petit degré de fièvre en plus, pas les grandes fièvres, mais c'était autour de 37,5, non, qui passait. Et cette température permettait la circulation électrique des nouveaux formes de lutte, qui étaient très contagieuses l'une avec l'autre. Et donc c'est pour ça que je préfère mettre la formule année de cuivre. Je suis toujours un peu... Je n'aime pas les versions officielles. Normalement, les versions des autorités, d'abord, je fais résistance à me les faire entrer dans la bouche. Mais le moment où je l'ai dans la bouche, je commence à les mâcher et après je les crache. Je ne les engloutis pas. Et ça dépend du fait que je suis quelqu'un qui a un respect pour son vocabulaire. Et donc, empêche, j'ai un système immunitaire qui me défend bien contre les falsifications des mots officiels.
À cette époque, Eri De Luca, donc, quand vous avez 18 ans et vous descendez dans la rue, est-ce qu'il y a des figures qui vous influencent ou qui sont vraiment importantes pour vous à ce moment-là? Il y a certains textes aussi, peut-être comme le texte d'Orwell, Hommage à la Catalogne. Qu'est-ce qui vous porte? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça, que ce soit des livres, des individus qui vous portent et qui vous enrichissent d'une certaine manière et qui vous portent dans ce mouvement?
Mes héros de l'adolescence étaient Marek Edelman, qui est un des combattants de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Buenaventura Durruti, qui était un chef anarchiste de la guerre civile espagnole. Et après, le plus répandu est Che Guevara. Ça, c'était mes héros de l'adolescence. Donc, je suis resté fidèle à ces figures. Qui n'avait pas besoin d'un parti ou d'un apparat pour appartenir à un mouvement de lutte.
Et certains textes aussi qui ont marqué votre engagement?
Oui, ça c'était l'hommage à la Catalogne de Orwell. Cet Anglais qui avait participé à la guerre civile espagnole à côté des anarchistes, donc il a raconté son côté de l'histoire de la guerre civile espagnole, qui a été la première guerre moderne. J'entends pour guerre moderne celle qui détruit majeurement la vie des civils, des gens sans défense, dans les centres, dans les villes, plutôt que des vies des soldats. C'est le produit brut de la guerre moderne, c'est la destruction des vies civiles. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc c'était la guerre civile espagnole a été importante pour moi comme prise de connaissance et d'héritage de la moitié du siècle où je n'étais pas encore là. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui est, appartient par entier à son siècle, au mieux au XXe siècle, parce que j'étais infecté par la moitié, pour les raisons et pour les luttes et pour les tragédies de la moitié précédente.
Et quelqu'un comme Pasolini, vous dites dans La parole contraire qu'il vous incitait à vous former une opinion en désaccord de lui. Pour cette raison-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a compté pour vous, pas spécialement ?
Non, il n'a pas compté pour moi. Ce qui comptait pour moi à l'époque, c'était toutes les raisons de mon appartenance à ce mouvement révolutionnaire. Mais Pasolini, c'était une personne loyale, honnête. Et c'était une personne qui avait un courage physique que normalement les intellectuels italiens n'ont pas. Donc il était présent. Il voulait voir ce qui se passait au rez-de-chaussée de la société. Il venait à contrôler, à regarder les manifestations, même violentes, que se produisaient à l'époque. Donc il était là. Ça m'est arrivé dans quelques manifestations de le protéger. Protéger son incolumité parce qu'il ne se préoccupait pas de lui. Donc j'admirais et j'admire le courage physique des individus. Pas le courage physique des multitudes, mais celle des individus, je l'admire. Et il avait aussi la bonne prétention d'un écrivain d'extrémiser son point de vue. Ça permettait au lecteur de se former un point de vue en relation au fait qu'il touchait les limites de cet argument, qu'il se penchait dehors. Et donc ça permettait, c'était utile, son point de vue originel ou bien extrémiste pour pour former une opinion personnelle. C'était fertile, son point de vue. Donc sur ça, il ne voulait pas convaincre la majorité. Il voulait établir son point de vue particulier et hors du centre, excentrique.
Éric de Luca, vous vous engagez en 69 dans le mouvement Lotta Continua. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les enjeux de ce mouvement, la manière dont il se forme de manière un peu donc, spontanée, on peut dire ça ?
Spontanée, si. Nous avons gardé une insouciance vers le format organisatif, le format parti. Nous étions... presque aucun de nous s'était déjà inscrit au Parti communiste. Nous étions tous des nouveaux communistes. Nous n'avions aucun état symbole. Pour nous, le communisme, c'était ce que nous faisions jour par jour. Et pas un lendemain ou un état qui appliquait cette formule. Donc nous étions des inventeurs de ce mot, qui n'avons pas inauguré nous avons hérité du siècle. Mais notre intention était celui de l'inventer. Et c'était un communisme qui organisait des luttes sociales. Donc nous étions dans les usines, et nous étions dans les écoles, nous étions dans les baraques, dans les banlieues où il y avait des personnes qui vivaient dans des conditions improvisées d'habitation, comme des favelas, autour de Rome. Et nous organisions des occupations de maisons vides pour ces gens-là. Et nous défendions les maisons occupées. Après, il y avait une tractative et on réussissait à faire assigner ces maisons vides, laissées vides par ces gens qui étaient sans maison. Donc c'était des luttes. La première lutte que j'ai organisée, c'était une lutte qui amenait de la courant et de l'électricité à une petite favela dans la banlieue de Rome. Nous avons pris un câble électrique, nous avons fait la connexion, nous avons amené la lumière, nous avons amené le 20e siècle, ouais, là dans la baraque. Et nous faisions des actions comme ça, des luttes comme ça.
Donc le mouvement a grossi au fil du temps et vous êtes devenu en fait un des dirigeants, on peut dire quand
non,
même.
Non, j'étais un militant. Je m'occupais de la section qui était celle roumaine, celle de Rome. Nous étions très nombreux à l'époque, très nombreux. Nous avions plus que 30 sections dans la ville de Rome, dans les quartiers populaires.
Donc vous gériez, vous coordonniez en fait ces sections, c'est ça? Vous avez dirigé le service d'ordre de ce
mouvement? Si, et c'est la seule chose qui se peut appliquer au mot d'ordre dans ma vie. C'était un service d'ordre. Ça veut dire qu'il fallait maintenir l'ordre dans les manifestations, qui étaient souvent attaquées, qui étaient souvent niées comme droit de les faire, mais le droit de manifester, ce n'est pas un droit qui est traitable, c'est un droit intraitable. Donc si quelqu'un te dit, ce n'est pas à disposition de la police le droit de manifester, donc si la police dit tu ne dois pas manifester, on manifeste quand même. Et à travers des formes de substitution d'une manifestation organisée normalement. Mais on le faisait parce que c'était comme ça. Cette forme de censure, nous ne la supportions pas, nous ne la tolérions pas. Donc nous faisons maintenant notre droit de parole publique, bien que nous avons été les plus incriminés et incarcérés de toute l'histoire de politique d'Italie. Cette génération a été la plus incarcérée pour des raisons politiques de toute l'histoire de l'Italie, mais plus que celle du 20 ans de fascisme. Donc c'est pour ça, mais nous avions notre système de défense. Nous avions notre système de protéger les incriminés, les pourchasser, les rechercher par la justice. Nous avons tout un réseau qui nous permettait de garantir la continuation à l'air ouvert de la vie libre. Nous étions un mouvement révolutionnaire, mais complètement public, pas clandestin, complètement public. Mais nous avions aussi un réseau de sûreté clandestin pour pouvoir faire loger notre militant recherché par la police.
Vous dites que vous êtes battu, Éric De Luca, pour la liberté. Il y a un mot qui a revu une importance particulière pour vous, donc c'est le mot de fraternité. Mmh. Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, vous avez expérimenté ou vécu la fraternité?
Je suis un fan de cette trinité laïque, non, de la liberté, égalité, fraternité, que vous avez introduit, vous Français, vous avez introduit dans le langage politique du monde. Et la liberté, l'égalité, sont des objectifs qu'on peut rejoindre avec la lutte. En se battant, on peut rejoindre la liberté et l'égalité. Je l'ai vu. Je l'ai obtenu, ces droits dans les usines, dans les rues. Mais la fraternité, non. La fraternité, on ne peut pas la conquérir. La fraternité, c'est un cadeau, c'est une condition, plutôt, pour faire avenir les libertés et les égalités. Donc c'est le sentiment qui permet de tenir ensemble les fibres d'une communauté et les faire rejoindre les résultats, les objectifs qu'a envisagé d'obtenir. Donc, je l'ai connu, la fraternité. La fraternité des personnes, la fraternité pas seulement la fraternité des militants. J'ai connu la fraternité de la population civile, mm-hmm, qui nous aidait et nous suivait dans ces combats. Je me souviens d'un moment où nous avons fait une manifestation contre une réunion de l'OTAN à Roma. C'était toujours à côté du Vietnam. Et la police nous avait attaqués, nous sommes retranchés dans un quartier populaire. Et ce quartier populaire qui s'est trouvé la guerre dans ces rues, au lieu de se renfermer dans les appartements, on est descendu dans les rues et on a aidé les militants que nous étions là dans les rues, nous a permis de résister et repousser les attaques. Donc ça, c'était la fraternité immédiate, populaire et directe, avec le soutien physique, avec les commerçants qui ouvraient les boîtes qui étaient fermées le soir, ils les ouvraient pour offrir des choses utiles, un poste pour se réparer. Comme ça, donc je peux dire que j'ai eu l'expérience physique de la fraternité.
Vos parents, Éric De Luca, ils suivent un peu de loin cette lutte. Votre mère vient en 71 à Bologne. En fait, pourquoi est-ce qu'elle vient? Pour essayer de comprendre, pour essayer de réduire un peu la fracture ou l'incompréhension qu'il peut y avoir entre sa génération et la vôtre. De même que votre père a accueilli aussi des militants de l'OTA Continua. Donc il y a une sorte de base arrière constituée par vos parents. Comment vous avez vécu cette... Est-ce qu'il y avait un dialogue à ce moment-là avec vos parents sur votre lutte?
Oui, ils avaient vu ce que je faisais. Ils savaient que je faisais le militant à temps complet, quoi, militant fixe, 24 heures sur 24, avec l'OTA Continua. Et donc ma mère voulait savoir... que vous voyez les personnes, sa jeunesse qu'elle ne connaissait pas. Et donc, l'OTA Continua, dans l'été de 71, avait fait un premier grand congrès national, donc à Bologne. Elle est venue à participer, à regarder, à écouter ce que je disais là. Et aussi, elle a pu se rendre compte de la pression que la policière qui était autour de nous. Et mon père n'est jamais venu dans les manifestations, mais il a accepté d'aider l'organisation. Donc il voulait suivre ce fils qui s'était égaré dans les rues et loin de...
Mais sans avoir l'intention de vous ramener.
Non, 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 non. Il savait que c'était perdu. Ma mère m'a dit que mon père, quand je suis sorti de la maison à 18 ans, s'est déchiré la chemise. C'est un son un rumeur que je n'ai jamais entendu, mais que s'est planté comme un clou dans ma conscience, dans ma mémoire. Cette déchirure était définitive, on ne pouvait pas la recoudre. Mais il voulait rester en contact, à distance, comme ça. Et donc, mon père achetait le journal quotidien L'Otta Continua. Il faisait la collection, année après année, il les mettait dans un livre. Et donc je me trouve une très rare collection intégrale de L'Otta Continua que j'ai mis maintenant à travers ma fondation. Je l'ai scannée, fait le scanner, et maintenant elle est publique et consultable par tout le monde.
Éric De Luca, au moment de la dissolution de L'Otta Continua en 77, à ce moment-là, vous renoncez à... l'engagement politique tel que vous l'avez mené pendant toutes ces années, pourquoi est-ce que vous n'engagez pas ailleurs?
C'est L'Otta Continua qui s'interrompait. C'était comme une contradiction en termes. L'Otta Continua, ça veut dire qu'elle doit continuer, ça ne peut pas faire des interruptions. Mais c'était interrompu. C'était comme dissouse, L'Otta Continua. Mais pas au moment d'une perte de prise, au moment du majeur consensus, quand nous étions les plus nombreux, dans ce moment-là, L'Otta Continua va se dissoudre. C'était une mesure que nous ne pouvions pas soutenir, évidemment. Et donc je commence à faire le métier d'ouvrier, parce que j'avais aucun titre d'études, et en plus c'était mon monde. Donc je commence à faire ce métier d'ouvrier, mais tout en restant dans une communauté. Donc c'est une communauté ouvrière, une communauté révolutionnaire plus large et plus, plus, plus étendue d'une organisation comme l'OTA Continua. Et je vais à Turin, je suis embauché comme ouvrier à Fiat. Et donc jusqu'à l'expulsion de l'été, de l'automne du 80, où la Fiat décide de se libérer de plus de 20 000 ouvriers, et nous faisions la dernière lutte ouvrière robuste pendant 37 jours et 37 nuits de résistance contre encerclant l'usine et en la bloquant complètement. Donc après cette expulsion, j'ai continué à faire l'ouvrier, mais là, je n'avais plus l'appartenance. Il n'y avait plus une communauté. Être ouvrier, n'était qu'un métier, le métier qui me touchait, qui m'était arrivé en sort de faire. Et donc j'ai fait ce métier pour encore beaucoup d'années. Donc j'ai terminé dans le 97. Donc c'était beaucoup d'années encore. De ce métier. Je suis resté tout simplement quelqu'un qui est resté loyal aux raisons de sa jeunesse. Mon attitude envers cette époque est celle de la loyauté, pas de la fidélité, parce que la fidélité pour moi regarde des questions personnelles, physiques, comme être fidèle à quelques personnes. Mais loyal aux raisons, oui, je suis resté loyal aux raisons de cette lutte. Donc j'imagine que si jamais le garçon, le jeune homme que j'étais, pouvait venir à la rencontre du futur, de celui que je suis maintenant, pouvait regarder dans moi la suite de ses raisons, de son mobile.
Merci Eri De Luca et on se retrouve demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffé avec Eri De Luca. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Christine Digère, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast pendant un an sur franceculture.fr.